Regard sur la philosophie. Une chronique de Damien Leguet sur Canal Académie.
Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un livre de Jean-Claude Guilbeault qui s'appelle « Le commencement d'un monde » et qui vient de paraître au Seuil. Alors, pourquoi Jean-Claude Guilbeault et pourquoi ce livre ? Jean-Claude Guilbeault est un journaliste de profession et depuis 1995, il a essayé, au travers de 6 livres, et maintenant donc le 7e, d'explorer un peu le désarroi de l'homme contemporain et les différentes évolutions que nous subissons et ou que nous essayons d'une manière ou d'une autre d'accompagner. 6 livres, ai-je dit, donc depuis la Trahison des Lumières, 1995, nous avons eu La tyrannie du plaisir, 98, La refondation du monde, 99, Le principe d'humanité, 2001, Le goût de l'avenir, 2003, La force de conviction, et donc aujourd'hui, au terme de cette analyse, Le commencement d'un monde qui, d'une façon ou d'une autre, reprend un tout petit peu les termes de cette enquête et cherche à y apporter une forme de conclusion. Donc, Guilbeault est avant tout un explorateur des 3 révolutions que nous connaissons. La première révolution, c'est celle d'Internet, qu'il nomme être le 6e continent, donc cette capacité à pouvoir se relier les uns aux autres par d'autres moyens que les moyens habituels, et donc qui modifie complètement nos repères spatio-temporels. Deuxième révolution qu'il a étudiée au travers de tout son travail, la génétique, donc le matériel génétique devient un matériel comme un autre et fait l'objet de manipulations nombreuses. Et puis, la mondialisation, mondialisation économique, mondialisation marchande, mondialisation des biens, des services, des personnes, développement du tourisme, etc. Donc, ces 3 révolutions-là impactent de manière considérable la perception que nous avons de nous-mêmes et cette modernité, post-modernité. Et donc, une de ces idées, c'est que nous sommes au seuil, nous sommes au démarrage d'une nouvelle anthropologie, c'est-à-dire une nouvelle manière de concevoir l'être humain. Alors, venons-en maintenant directement à ce dernier livre, un peu conclusif, Le commencement d'un monde. Je trouve tout à fait intéressant, comme dans les autres livres, un certain nombre d'explicitations qu'il peut donner des évolutions que nous connaissons. La première, donc, dans ce livre, tient à ce qu'il appelle la fin de la séquence occidentale. Donc, nous avons vécu, notre monde a vécu depuis 4 siècles, depuis le 17e jusqu'à maintenant, sous une forme d'hégémonie du modèle occidental, avec l'expansion, l'expansionnisme, la colonisation, la domination de la science, la domination du modèle politique, etc., etc. Et donc, lui dit clairement, ce qui est une évidence, que nous vivons d'une certaine façon la fin de cette domination, la fin de cette mainmise, d'une certaine façon, de ce modèle occidental sur la marche du monde. Et donc, il ne parle plus maintenant d'Occident, comme si l'Occident était effectivement au centre, ce qui était le cas préalablement, mais justement, pour définir cet Occident, de centre. Il y a donc un centre et des périphéries, et ces périphéries-là, progressivement, commencent à prendre, si ce n'est le dessus, du moins à prendre de façon pleine et entière leur place dans la marche du monde. Il montre bien aussi, et je trouve ça tout à fait pertinent, ce n'est pas la première fois qu'il le montre, mais enfin là, il le montre aussi, le rôle fondamental dans cette expansion occidentale, dans cette séquence occidentale qui vient à se terminer, le rôle donc de la matrice judéo-chrétienne pour bien comprendre pourquoi est-ce que d'autres espaces géographiques qui auraient pu eux aussi connaître cette expansion ne l'ont pas connue. Cette matrice judéo-chrétienne donc explique selon lui à la fois la science, c'est-à-dire ce besoin de savoir, ce besoin de connaître, ce besoin d'explorer, avec cette jonction entre le besoin de savoir et puis la recherche, la connaissance, l'exploration, la domination de la nature telle qu'effectivement elle nous a été donnée, proposée par le modèle judéo-chrétien, donc d'une part. Et puis deuxième élément de cette matrice, un rôle politique, la conscience politique venant de une conscience religieuse de l'autonomie, donner à soi-même sa propre loi, considérer que la conscience elle-même est là pour avaliser les lois qui nous viendraient ou qui nous viennent de l'extérieur. Donc ce deuxième élément a donné à la fois la démocratie et les droits de l'homme. Alors je simplifie, je fais des raccourcis, mais enfin, c'est les deux idées, si vous voulez, principales qui sont dans ces éléments de développement, d'initiative de la matrice judéo-chrétienne. Alors, face à cela, qui a été, disons, l'élément historique, nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est complètement bouleversé par cela. Nous avons bien évidemment vu de quelle manière il y a des délabrements, pour reprendre les termes de Guibeau, des délabrements qui sont à l'œuvre. Délabrements dans l'économie, et nous sommes au cœur d'un des délabrements de cette économie, de la science, de la culture, tous ces éléments-là qui remettent en cause ce modèle et qui, regrette Guibeau, fait prévaloir une forme de sous-culture, la sous-culture étant, disons pour faire vite, la télévision, la télé-réalité, cette sous-culture qui est véhiculée par les médias, donc prédominance de la sous-culture sur la culture. Il dit même « un ahurissant tintamarre s'est abattu sur le monde ». Ahurissant tintamarre de médiocrité, il parle de soupe, etc. Donc tout cela véhiculé par les outils de la modernité occidentale, donc essentiellement la télévision, et ce, au détriment de la culture, la vraie, l'authentique, celle qui a été portée, développée par le centre ou l'Occident depuis des siècles. Donc nous sommes effectivement, nous offrons, ce centre offre le spectacle d'une vulgarité qui vient endommager, qui vient remettre en cause, qui vient exercer une forme de cancer sur ce sous-jacent culturel qui est là. Donc tout cela, il en parle, tout cela, il le développe, il n'est pas le seul à en parler, il n'est pas le seul à le développer, mais il en parle de manière tout à fait intéressante. Autre point qui m'a tout à fait aussi intéressé, quand il analyse la mondialisation du religieux. Nous assistons, évidemment, disons, après la colonialisation, après le développement essentiellement à la fois du christianisme dans d'autres pays que l'Europe au XIXe siècle essentiellement, et puis aussi lors de ces éléments de migration, de déplacement de population, une mondialisation aussi de l'islam. Donc, nous avons une transformation très importante, il le dit, il analyse, il le regarde, du religieux sur, et qui nous fait connaître, des éléments de modification, de changement, de développement différents de ceux que nous avions connus préalablement. De sorte que, d'une certaine façon, c'est aujourd'hui le tiers-monde, enfin, ou l'ancien tiers-monde, enfin, la périphérie, qui porte avec le plus de vigueur un christianisme qui a été autrefois exporté, si l'on peut dire, ou qui a été apporté par l'Occident et par le centre, alors même que le centre, justement, lui, fait l'objet d'une perte de croyance qui affecte la religion. Et il dit donc que Dieu, d'une certaine façon, a changé de camp et que l'athéisme est maintenant, d'une certaine façon, ou la remise en cause de la religion et des croyances est le propre de ce centre-là. Donc, nous avons ce bouleversement-là. Alors, le seul bémol qu'on pourrait mettre quand il analyse cela plus en détail que ce que je viens de dire, c'est que lui pense, et c'est une conviction forte et que nous retrouverons dans les critiques que nous pourrons faire à la fin, lui pense que l'islam, d'une manière ou d'une autre, va être, disons, digéré par la modernité, que les éléments, disons, de violence que l'on peut trouver ici ou là dans telle et telle forme d'islam, que ces éléments de violence vont progressivement s'atténuer eu égard à cette mondialisation qui brasse des cultures différentes et donc permet, là aussi, d'apporter une forme de conciliation et donc que nous allons, là aussi, sur ce modèle d'un religieux mondialisé, aboutir à une forme de pacification des conflits religieux. Donc tout cela, il le montre bien. Le dernier point qui me paraît là aussi très bien vu concerne ce qu'il appelle les identités en détresse. Donc eu égard à ces brassages, eu égard à ces éléments de mondialisation, de déplacement de population, les identités qui autrefois étaient, disons, plus ramassées sur elles-mêmes, plus compactes, deviennent aujourd'hui des éléments de fluidité, de composition, de recomposition, de bricolage. Et je trouve tout cela effectivement tout à fait pertinent. Cette analyse rejoint bien évidemment celle de Bauman, par exemple, sur notre modernité liquide. Et nous sommes là effectivement dans des éléments de recomposition, d'identité, ce qu'il appelle des identités en détresse, et qui à la fois mettent en cause les cohésions étatiques, les cohésions des sphères traditionnelles, et en même temps apportent de la diversité, du changement, des recompositions identitaires auprès des individus, ce qui lui semble être, d'une manière ou d'une autre, plutôt une bonne chose. Alors, quel est le bémol que l'on pourrait apporter à cela, ou quel est le bémol que moi j'apporte à ce livre, et d'une façon ou d'une autre à, disons, à l'ensemble du travail de Jean-Claude Guilbeault? Disons-le d'un mot, l'analyse et le travail qu'il a fait au long de ces 7 ouvrages sont... Ce travail est tout à fait intéressant, bien informé, il va puiser à des sources nombreuses et variées, il est extrêmement pédagogique, il explique extrêmement bien les enjeux, il va chercher des auteurs qui ne sont pas forcément les auteurs que l'on lit toujours le plus facilement et donc avec le plus de paresse aujourd'hui. Donc ce travail-là, ce travail de sourcier d'une certaine façon, ce travail d'explication, ce travail de compréhension, je trouve, est tout à fait remarquable et doit être en tant que tel signalé. Alors, le bémol, donc, porte essentiellement sur la conclusion. La conclusion, c'est d'une certaine façon l'horizon de sens sur lequel il positionne tout son travail. Lui pense effectivement que nous allons, et c'est le sous-titre de son livre, donc le titre de ce livre, c'est « Le commencement d'un monde », et le sous-titre « Vers une modernité métissée ». Donc, lui pense que nous allons vers ce métissage, vers ce brassage, vers ce qu'il appelle une forme de culture-monde, de créolité des identités, ce qui en soi, on peut le comprendre tout à fait. Mais lui pense que ce métissage, ce brassage, cette créolité des identités va nous conduire, d'une certaine façon, à apaiser toutes les tensions qui sont inhérentes aux identités, aux cultures, aux religions. Voilà. Quand, d'une certaine façon, nous sommes composites, nous ne pouvons plus nous battre contre nous-mêmes, et donc la tolérance serait d'autant plus grande que les identités, que la composition identitaire des individus est métissée. Donc, si nous allons, et c'est l'optique de Jean-Claude Guilbeault, si nous allons vers un métissage généralisé, si nous allons vers un mélange de plus en plus important des cultures au sein d'un même individu, eh bien, à ce moment-là, nous allons, pense-t-il, vers une forme de paix, de pacification, de cessation des conflits. Donc ça laisse supposer, à l'inverse, que les identités, d'une certaine façon, pour reprendre l'expression de Barnaby, sont meurtrière, que l'affirmation de sa culture s'oppose d'une certaine façon à d'autres cultures et que cette opposition est elle-même génératrice de violence. Donc si l'on supprime les oppositions de culture, si l'on supprime les oppositions d'identité, si nous allons vers un mélange le plus complet possible des identités, alors à ce moment-là, nous irons vers un horizon pacifié et un être qui serait, parce que composite, pacifié en lui-même et n'ayant plus de raison ou pas de raison de se battre ou d'exercer une quelconque violence à l'égard de qui que ce soit. C'est cet élément d'horizon-là qui relève soit de la méthode Coué, soit d'un optimisme qui ne semble pas être confirmé par les analyses que lui-même donne à lire, qui rencontre, disons, une certaine résistance, enfin, pour les lecteurs que je suis, et qui, d'une certaine façon, me semble-t-il, mélange des plans différents. Vous avez le plan d'analyse, j'en ai dit à juste titre le plus grand bien, et vous avez ce plan, d'une certaine façon, presque eschatologique, enfin de l'horizon qui, lui, semble être plus difficile à tenir. Et il me semble que cette difficulté-là de raccrocher la conclusion, l'optimisme, l'irénisme, d'une certaine façon, du métissage généralisé comme horizon de visibilité des cultures. Donc ce conflit entre cette conclusion-là et puis les analyses que lui peut faire par ailleurs met en évidence chez Guilbeault, comment dire, une forme de pensée en mille feuilles. Voilà, des éléments de strates qui ne sont pas complètement mêlés, complètement confondus. Et n'oublions pas que effectivement Guilbeault vient, disons plutôt pour faire vite, de la gauche, d'une gauche plutôt militante, et que progressivement Il a fait sa propre conversion religieuse et chrétienne. Et je ne peux que vous renvoyer à ce très beau livre et très intéressant livre qu'il a écrit en 2007, qui s'appelle, très court et tout à fait passionnant, qui s'appelle « Comment je suis redevenu chrétien ». Donc cette conversion de lui-même au christianisme, qui est un peu l'aboutissement de sa conclusion, semble, si ce n'est contradictoire, du moins un tout petit peu difficilement conciliable avec cet optimisme, disons, tiers-mondiste et de gauche qui était le sien au début. Et donc, ce travail de synthèse, d'homogénéisation de pensée et peut-être même éventuellement de personnes, d'individus, ne me semble pas complètement fait et abouti, d'où ce hiatus, ce divorce, ce difficile rattachement de l'analyse d'une part avec la conclusion. Ceci dit, je ne peux que vous recommander, à la fois pour la clarté de l'exposition, à la fois pour la masse tout à fait passionnante d'informations, à la fois pour l'honnêteté, et j'insiste sur ce mot-là, sur l'honnêteté de l'individu qui, effectivement, peut penser peut-être de l'extérieur un peu de manière contradictoire, mais le dit quand même par honnêteté. Donc, l'honnêteté du personnage, l'originalité et le travail de ces 7 livres qui aboutissent à ce livre donc d'aujourd'hui, Le commencement d'un monde. Donc je ne peux que vous recommander la lecture de l'œuvre de Guy Debeaux et en particulier donc de son dernier, Le commencement d'un monde. Merci.